Place à la finale de la Ligue nationale de hockey. Maintenant, retrouvons tout de suite Danny Dubé. Bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
Donc, t'es pas tombé en bas de ta chaise. Hier, on pressentait, toi et moi, j'en ai parlé avec Paul Lude, qui était en accord avec ça également hier. On pensait tous les trois que les Blues allaient revenir dans cette série-là. Ils ont réussi à le faire, malgré un départ difficile, là, tirant derrière 0-2.
J'ai trouvé quand même assez spécial le début de match. Je m'attendais à peut-être quelque chose de plus serré défensivement de la part des Blues, mais... Écoute, les Blues, c'est une équipe qui vit sur de l'émotion. Alors, est-ce que c'est la meilleure des deux équipes? Je me répète, je pense que non. Est-ce qu'elle peut gagner si elle réussit à se sauver avec cette série et donc avec la Coupe Stanley, marquer l'histoire de cette organisation? Ce sera avant tout une question de cœur et d'émotion.
Cœur et émotion, c'est pas ça qui manque du côté des Blues. On sent un lien exceptionnel entre l'entraîneur Craig Berube et ses joueurs. Et on les a jamais sentis complètement désemparés à 0-2. Et on faisait allusion à Jordan Binnington hier et les points d'interrogation que tu avais sur sa performance. Comment allait-il réagir si ça allait mal? Ben hier, on a eu un bon échantillon de ça. Il a donné deux buts où il a pas super bien paru, mais c'est vraiment bien relevé par la suite et a fait vraiment partie de la victoire des Blues.
Oui. Non, c'est ça. Écoute, c'est un gars qui a cette qualité d'avoir, en tout cas, la chance, mais surtout la qualité d'être capable de faire face à l'adversité. Tu as des gardiens qui sont de très bons gardiens, ou comme de très bons joueurs d'ailleurs, c'est la même chose pour les joueurs. Tu vois qu'ils ont du talent, qu'ils sont capables de composer avec certains éléments, mais l'adversité les déstabilise. Et j'ai pas senti, dans le cas de Binnington hier, qu'après, oui, il y a eu un petit passage à vide, là, mais... C'est un bagarreur. Tu vois qu'il est habitué d'être dans le trouble. Il fait partie de sa carrière. Donc, il trouve des pistes de solution. Et ça n'enlève rien à tout Carrask. Je suis pas en train de dire que lui est meilleur que l'autre ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose dans Binnington qui est dans son parcours, entre autres, qui fait que c'est un gars qui est extrêmement intéressant à suivre pour ça. Parce qu'il y a cette qualité-là. Puis je pense que si j'étais un dépisteur, c'est une des choses que je regarderais attentivement, c'est sur le parcours d'un joueur, à quel moment il est dans la difficulté, comment il a fait face à la difficulté, comment il a analysé ses échecs, comment il gère aussi ses propres attentes et les attentes de ses coéquipiers. Tout ça, pour moi, ça fait un tout.
Et ça me fait penser à d'autres choses qu'on a déjà abordées ensemble et qui revient. Je t'ai fait allusion au propos de Vlasic il y a quelques semaines avec les gars des Sharks. Mais tu sais, ça s'applique à tout puis à n'importe qui dans le monde du sport. Ceux qui finissent par réussir, c'est ceux qui plient pas là, dans l'adversité, et ceux qui se contentent jamais d'une certaine façon, quitte à des fois en devenir désagréable. Puis je dis pas que c'est un automatisme que de devenir désagréable, mais de toujours vouloir en faire plus. Comme le Canadien l'an passé, sont arrivés à court de quelques points. Ben il y a quelques soirs dans la saison, si tu repenses à des résultats, ben oui, on aurait pu en faire un petit peu plus, on aurait pu en donner un petit peu plus, là, etc. Donc, les équipes qui ne se contentent jamais. Puis, c'est ça qu'on a. C'est incarné par les deux équipes qui sont en finale en ce moment, d'ailleurs. Parce que les Blues aussi sont passés par là, même si quelques éléments du noyau ont gagné la Coupe Stanley.
Oui, tout à fait. Puis, écoute, c'est une équipe qui est affamée aussi, celle des Blues.
Vraiment.
La seule chose, c'est que je pense que là, hier, ils étaient en réaction. Ils étaient en réaction, pourquoi? Parce qu'ils se sont fait malmener physiquement. Les Blues ont été meilleurs partout. Ils ont plus de tirs, ils ont plus de chances de marquer, ils ont plus de... Tu sais, ils ont vraiment été plus de mise en échec, évidemment. Et ils ont intimidé et dérangé. Tu sais, des fois, tu t'intimides pas, mais tu déranges. Des fois, tu intimides. Il y a certains joueurs qui ont été, je pense, plus indisposés par cette situation-là. Puis il y en a d'autres qui étaient plus dérangés sans avoir peur. Donc, déranger, ça veut dire précipiter leurs gestes, ça veut dire faire des choses que normalement ils feraient pas de la même façon s'ils sentaient pas la pression venir aussi vite.
Comme le jeu où Krejcik s'est fait sortir, as-tu l'impression que la responsabilité vient totalement sur l'agresseur, Sundqvist, ou sur Krejcik qui s'est mal comporté avec la rondelle quand il tentait de sortir de la zone puis qu'il sentait le train arriver?
Ben écoute, le défenseur des Bruins, il fait un peu une manœuvre à risque, comme bien les joueurs de la Ligue nationale vont faire. Il fait face à la bande pour être capable de protéger la rondelle une fraction de seconde, puis renverser, changer le jeu de côté. Alors, ça prend beaucoup de courage pour le faire, mais en même temps, le règlement, il est clair, Mario. Si le joueur est vulnérable, puis tu le frappes, ben tu vas le frapper de façon contrôlée. Tu vas pas le frapper en essayant de le blesser. Alors, la rondelle est même plus là, puis Sundqvist arrive, puis vraiment là... Et il lui assène un coup à la hauteur du nom sur son chandail. Je comprends que Grizzly est moins grand, là. Ça, mm-hmm. c'est correct, là. Mais à un moment donné, si tes patins lèvent de terre, s'il quitte la glace puis tu frappes le gars, vraiment, il va avoir des conséquences. Mais en même temps, je me mets de l'autre côté. Je me place de l'autre côté de la clôture. Si je suis un arbitre puis c'est limite, ben, je donne un 2 minutes parce que j'ai le choix de le faire.
Puis la Ligue va s'occuper du reste.
La Ligue va s'occuper du reste. Mais honnêtement, là, quand il y a du sang et c'est 4 minutes bâton élevé, l'arbitre n'a pas le choix. Pourquoi on ne fait pas pareil avec les coups à la tête?
On veut pas aller là. On veut pas aller là.
Mais on va être obligé
d'y aller,
Mario.
Mais je suis d'accord avec ta logique, là. J'argumente pas contre la logique.
Non, je comprends.
Honnêtement, c'est ridicule que ce soit pas déjà le cas. C'est rendu le cas dans la NFL, d'ailleurs, au football.
Absolument.
Particulièrement un corps arrière. Tu peux pas lui toucher. Et ça a entraîné des mauvaises décisions où on pensait que quelqu'un avait touché au corps arrière, puis il n'y avait pas touché. Puis finalement, ça peut changer l'allure d'un match. Mais il n'y a plus de marge de manœuvre. Au moins, on est sûr qu'on veut protéger la tête des joueurs.
C'est ça. C'est une question de santé, c'est une question de sécurité, d'intégrité pour les athlètes, etc. Il n'y a pas quelque chose à voir là-dedans. Puis moi, je te dis, on en a parlé ensemble, je te le répète, pour moi, la pénalité majeure, coup à la tête, tentative de blesser le joueur, là, quand tu es capable d'identifier ça, moi, ce serait une pénalité majeure, mais ce ne serait pas un 5 minutes. Ce serait soit un 4 minutes, soit un 2 minutes. Mettons un 2 minutes. On part comme ça. Là. 2 minutes majeures.
Mais 2 minutes complet, c'est ça que tu veux dire? C'est que le gars, il écope de son 2 au complet, même si tu marques pendant la première minute, c'est ça?
Exactement, mais à 5 contre 3.
Ah, à 5 contre 3. Oh.
Oui.
Ça, je pense que tu bousculerais un petit peu trop avec une idée comme celle-là.
C'est quoi? J'y bousculerais, mais en même temps, si tu veux donner une vraie valeur à ce que tu priorises, tu sais, c'est comme de dire à ton enfant, t'as pas fait tes devoirs, ça fait que je te donne pas tes patates aujourd'hui, mais je sais que t'en manges pas.
Ouais, c'est ça.
Ou je t'en dessert, puis je sais que t'aimes pas ça.
Ah, défendre pendant 2 minutes, c'est faisable, c'est sûr.
Oui, mais
alors,
à 5 contre 3,
c'est un
soir. Exactement. Ouais. Là, tu vas être obligé d'y penser. Là, l'arbitre, lui, c'est un coup à la tête. Aussitôt, il n'est pas sûr de parler à la vidéo.
Mais l'idée
parce
est intéressante.
C'est une pénalité majeure.
Mais une
pénalité
ligue qui n'est même majeure, pas capable encore de dire qu'un coup à la tête, c'est une pénalité automatique. Une pénalité majeure automatique. Je pense pas qu'il serait prêt de passer à 5 contre 3. Même...
Non, mais Mario, on parle des deux côtés de la bouche, là, parce qu'en même temps, il y a les batailles et tout ça.
Mais laisse-moi dire quelque chose sur la mise en échec d'hier. Moi, je donne le bénéfice du doute à Sengvis, ce jeu-là. Puis honnêtement, je suis vraiment pas un apôtre de la violence et je réagis assez avec émotion généralement quand il y a des coups à la tête que je peux qualifier de traite ou disons, hier, je trouve que c'était une séquence de jeu. C'était un jeu, comme ils appellent un jeu de hockey, mais oui, limite, le résultat est pas édifiant, mais j'ai pas senti l'intention, parce que l'intention de tout le monde sur la glace, c'est de faire mal à tout le monde dans cette série-là. Là. Clairement, tu le sens, mais j'ai pas l'impression qu'il ciblait la tête. Je pense que le défenseur s'était mis d'une drôle de position, mais je vivrais très bien avec l'application d'un règlement où on dit, c'est automatique, c'est un coup à la tête, puis bon, c'est une suspension, c'est un 2 matchs. J'aurais pas de misère avec ça.
C'est ça. Là, si on regarde la séquence au super ralenti, ce qu'on voit, c'est que il frappe à la hauteur du nom du joueur, donc au-dessus du numéro. Et ça, c'est une autre chose qu'on dit qu'il ne faut pas faire. Parce que à minute où tu places tes gants, ton épaule, ton coude à la hauteur du nom du joueur, donc tu es en haut du numéro, là, ça veut dire que c'est tête première. Tête première, risque optimal. Rappelle-toi de la décision de Hockey Canada de mettre un stop dans le dos. Ils l'ont mis où aux joueurs?
Oui.
Chez les jeunes, ils l'ont mis en haut du numéro.
Mm-hmm.
Parce que c'est là qu'il ne faut pas frapper. C'est là où c'est dangereux. C'est là où il y a une perte d'équilibre. C'est là où tête première, ça peut être fatal. Alors, moi, tu sais, j'ai pas de problème. C'est du sport spectacle et tout ça. Mais comme dirait l'autre, amène-né. Tu sais, je veux dire, il y a quand même une ligne, là. Alors, oui, il y a le coup à la tête pur sur le jeu en transversal. Le gars arrive, bang, tu y mets ça directement sur la margoulette. On a mille et un exemple. C'est pas là que je veux aller. Mais il y a toutes ces situations un petit peu plus ombragées où c'est teinté de gris. Puis là, on dit, c'est un jeu de hockey. Non, mais le gars, il fait dos. Il n'y a plus de rondelles. Toi, t'es joueur quatrième trio. Tu t'es fait dire au dernier match que t'as été surclassé. Ça fait que là, t'arrives, tu fais ta job. Tu comprends?
Mm-hmm.
Et donc, tu complètes ta mise en échec. Et connaissant l'entraîneur des Blues, je suis pas en train de mettre ça sur le dos, mais tu sais quel message.
Quelques milliers de pénalités lui-même en carrière.
C'est exactement le message à passer. Si on ne fait pas ça, on n'a aucune chance. Et tu sais quoi? Il a raison.
Danny, un autre sujet, on est déjà tout près de la fin de notre conversation et je te demande comme ça, tout de go, si tu sais qu'Eric Karlsson est ouvert à l'idée de venir jouer à Montréal parce que sa famille est à Ottawa, c'est pas bien ben loin, j'essaie de trouver une raison, est-ce que même si sur le flanc droit t'es bien nanti avec Petrie et avec Weber, mais avec une attaque massive qui en a arraché sérieusement l'an passé, est-ce que si tu sais que t'as une chance de signer, tu t'attaques à ce dossier-là, Eric Karlsson?
Oui.
Oui?
Oh oui.
Tu peux pas passer à côté d'un joueur de ce talent-là, hein, qui est encore jeune. Imagine, là, on jase. Eric Karlsson puis Matt Duchesne qui arrivent tous les deux dans la même vague, ça te change-tu une équipe, ça?
Ben, c'est sûr, ça replace ses affaires, là. C'est, on est ailleurs. On est ailleurs, puis tu sais, encore une fois, là, je vais pas être méchant, là, mais je regarde le Canadien, autant au centre, ça s'améliore. Ça va prendre quelques années avant d'arriver à échéance. Mm-hmm. Mais à la défense, là, écoute, un gars comme ça, c'est un incontournable, là, évidemment.
Là. Même blessé, là, il a quand même accumulé tout près d'un point par match en série. On dit qu'il jouait blessé, que la direction de l'équipe le savait. Tout le monde l'acceptait comme tel parce qu'on savait qu'il y avait plus à offrir qu'à faire subir.
Je ferais un peu de recherche là, pour voir comment il joue quand il est utilisé du côté opposé. Mais t'sais, il est tellement bon. Là.
Exactement. C'est un gars qui peut jouer partout sur la glace puis probablement qu'il pourrait s'ajuster à jouer du côté opposé avec un Petrie ou avec un Weber pour alimenter la garnotte à Weber sur un jeu de puissance. Mais ça serait intéressant, donc. Puis un gars, puisque je t'ai posé la question pour Karlsson, puis quand tu dis qu'on n'est pas à la même place, quand je mentionne Duchesne du même souffle, ça veut dire que tu serais assez favorable à ce qu'on tente de séduire un Matt Duchesne et l'amener à Montréal?
Ouais, ben Duchesne, c'est un dossier.
Il est intriguant,
lui.
Hein?
Il est plus intriguant. C'est mi-figue, mi-raisin. T'sais, moi, j'aime bien dans le mix quelque chose de différent. T'sais, j'ai encore mes réticences par rapport à Duchesne. Je le connais pas assez, là. Mais c'est pas le joueur qui me. Je trouve qu'avec l'ADN du Canadien, c'est content de mettre en place avec les jeunes joueurs. Le mot leadership est très important. Mm. Et dans le cas de Duchesne, comme dans le cas de Karlsson, c'est cette petite affaire qui me... Tu sais, parce que tu te maries, là. Je veux dire, c'est des gros contrats, là. Tu fais pas de...
Non, c'est sûr.
Comme dirait l'autre, pas de niaisage, là.
Non.
Un gars comme ça, là, c'est...
7 fois 10, c'est pas loin.
C'est des longs contrats, c'est beaucoup d'argent. Mais en même temps, Karlsson s'amène à Montréal. Écoute, dans le vestiaire, dans l'entourage de l'équipe, tout ce qu'il amène, c'est sûr que là, c'est un wow. T'sais, pour les joueurs, là, c'est vraiment un wow.
Vraiment. Et on peut rêver à ça encore un peu. Il a pas décidé d'aller ailleurs, mais en tout cas, de la manière qu'il dit au revoir à tout le monde de la région de San Francisco, on n'a pas l'impression qu'il va demeurer à San Jose. Danny, je sais que tu vas prendre congé ce soir parce que t'es pas trop basket. Alors, on va s'en reparler, nous autres, du match numéro 3 de la finale très bientôt. Merci beaucoup.
Prochaine.
Puis à demain. Yes, sir.
Merci bien.
Salut, Danny. Et parlant de basketball, après la pause, on s'en va rejoindre du réseau des sports. Alexandre Tourigny à Toronto, qui travaille comme reporter justement pour la diffusion du match soir à RDS. Alors, revenez-nous dans un petit moment.